Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Et c'est reparti, nous sommes le 17 mai, le tapis rouge est déplié et les festivités attendent ce soir pour commencer. Le 70e festival de Cannes s'ouvre donc ce soir. Alors on va beaucoup vous parler bien sûr des films, des stars, des enjeux économiques, des mutations du cinéma et même de l'industrie cinématographique. Mais mon invité ce matin, lui, va nous parler de tous ces gens-là qui sont encore attirés par le Festival de Cannes, les badauds, ceux qui travaillent pour le Festival de Cannes sans être invité, accrédité, acteur du Festival de Cannes. Ça fait l'objet d'un beau documentaire, assez surprenant d'ailleurs, qui parle beaucoup de la société, de comment on peut être conditionné par un festival comme le Festival de Cannes. Ça a pour titre Le goût du tapis rouge. Olivier Servet est mon invité ce matin. Mais en deuxième partie, comme tous les mois, je recevrai Michel Simon au nom de notre partenariat cinéphilique avec sa revue Positif. Et juste avant de prendre le train pour Cannes, Michel Simon nous dira pourquoi il a déjà un grand coup de cœur pour le film de Jacques Doyon, Rodin. Mais tout d'abord, Olivier Servet, bonjour. Vraiment, vous filmez Cannes. Alors, votre film, il va sortir pas dans le cadre du Festival de Cannes, mais on pourra le voir dans une salle à Cannes et dans une vingtaine de salles d'art et d'essai. Vous filmez le Festival de Cannes comme si c'était une bulle où il y a d'un côté le petit peuple et de l'autre les grands seigneurs, les grands puissants, les grands patrons.
Oui, c'est un peu ça. Oui, j'ai essayé de regarder le Festival de Cannes, ou plutôt Cannes pendant le festival, effectivement la société moderne en augmenté, en grossi, un peu comme un théâtre dont on essaie de décrire un petit peu les rouages et les coulisses.
Mais vous faites une lecture plutôt marxiste de ce festival, on peut le dire, Olivier Servet?
Je m'attendais pas à cette question. Je sais pas. Je suis persuadé que le Festival de Cannes, c'est une sorte de microcosme où on retrouve effectivement les structures sociales de notre société contemporaine, ni plus ni moins. Alors, je sais pas si c'est marxiste que de parler de classe, mais je vous laisse maître de vos propos.
Mais alors, Olivier Servet, quelles étaient vos intentions en vous lançant dans cette entreprise, c'est-à-dire de filmer le Festival de Cannes, mais à partir des non pas des stars, non pas des metteurs en scène, ni des producteurs, mais des Cannois, des badauds, des gens qui sont attirés par les lumières, on rencontre les ouvriers, les passants, les artistes de rue, mais aussi les SDF, les vendeurs à la sauvette, les cinéphiles, il ne faut pas les oublier.
Oui, ce que je voulais filmer, c'était montrer que la proximité spatiale pouvait être compatible avec la distance sociale. Cannes, c'est un endroit dans lequel les gens se côtoient très peu, restent très largement ségrégationnés. C'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a vraiment des partitions extrêmement fortes et marquées, et on les voit de manière très, démonstrative à Cannes, quoi. Mais peut-être dans d'autres endroits du monde aussi, hein. Mais Cannes fait partie de ces lieux-là, probablement, oui. Je crois même que ça s'est renforcé, c'est-à-dire que le Festival de Cannes laisse de moins en moins de liberté. Dites-moi quelle accréditation vous avez, je vous dirai où vous pouvez aller ou pas. Dites-moi presque quelle couleur de peau vous avez, je vous dirai quel boulot vous faites. Ça s'est très largement accéléré ces dernières années. Festival de Cannes, c'est le monde néolibéral en réduit.
Olivier Servet, votre film documentaire sort aujourd'hui dans quelques salles, Le goût du tapis rouge.
Une vingtaine pour l'instant.
Oh, une vingtaine de salles, pas mal. Dans le circuit d'art et d'essai, je suppose.
Mm-hmm, tout à fait, oui.
Est-ce que le Festival de Cannes vous a aidé pour la réalisation de ce film?
Non, aucunement. Non, c'est un film qui est pour l'essentiel autoproduit, donc avec des petits moyens. Non, on a été aidé par la mairie de Cannes, qui nous a autorisé à suivre son service de nettoyage, ça c'est très clair. Et puis on a eu beaucoup de refus pour tourner. Alors je ne vais pas citer les noms, hein, sauf si vous me le demandez expressément, mais on a eu beaucoup de refus, oui. Donc il faut se faufiler, il faut dépasser ou contourner un peu les interdits, oui.
Vous avez filmé les personnels des grands palaces, on les voit. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu filmer ?
La partition de l'espace est simple, hein, c'est l'espace public, vous tournez, il est normal de tourner, voire ordinaire d'avoir une caméra et un micro. Et puis tout le reste, vous êtes interdit. Si vous n'avez pas la bonne accréditation, il n'y a pas de passe droit. Le bord de plage, on ne peut pas tourner, les palaces, on ne peut pas tourner, et donc ça veut dire que si vous tenez vraiment à tourner, il faut se faufiler, il faut trouver des astuces pour pouvoir tourner, évidemment en respectant le droit à l'image des personnes, bien entendu.
C'est-à-dire que vous avez tourné avec votre téléphone portable ?
Oui, tout à fait. Les interviews ont été tournées, l'essentiel des interviews a été tourné avec un téléphone portable, oui. Tout ceci pour éviter la distance que provoque l'existence d'un appareil ou d'un médium trop important, trop volumineux.
Alors tous les gens que vous interviewez, tous ces illustres anonymes qui veulent avoir leur moment de gloire durant le festival de Cannes ou qui imaginent que peut-être ils auront la chance de côtoyer la gloire ou des gens qui touchés par la grâce de la gloire, ils vous regardent en face, on a l'impression que ça a été pour vous un choix que de filmer les gens sachant qu'ils allaient être filmés.
Ah oui, c'est un choix très explicite. On a même des gens qui se prêtent au jeu, qui surjouent leur propre rôle, qui demandent même à refaire leur propre rôle, à leur propre personnage.
Et vous, Olivier Servet, quel lien entretenez-vous avec le Festival de Cannes ? Est-ce que c'est un rendez-vous important pour vous ?
Oui, moi je suis venu à la réalisation par la cinéphilie, quoi. Donc j'ai été d'abord pendant 20 ans un cinéphile qui venait voir les sections parallèles pour voir des films qui ne seraient peut-être pas distribués ensuite. Je crois que ça fait 20 ans que je vais à la quinzaine des réalisateurs et à un certain regard. Donc je suis venu par là. Ensuite, quand on prend la caméra et qu'on se décide de faire de la réalisation, moi j'en suis à mon troisième film, le regard change un peu, c'est-à-dire que vous avez un regard un peu plus inquisiteur, vous n'êtes plus simplement là pour voir du film, mais fabriquer du film. Et là, le regard change un peu quand même, on laisse forcément de côté son côté cinéphilie pour mettre en œuvre son activité de réalisateur, quoi. On ne peut pas faire les deux à la fois, voilà. C'est très compliqué de faire les deux à la fois. J'essaie un petit peu, mais c'est très compliqué. D'ailleurs, la plupart des réalisateurs sont peu cinéphiles parce qu'ils n'en ont pas le temps. Ou peu le temps.
Et pour tout ce qui est rituel, c'est-à-dire la montée des marches, le tapis rouge, les polémiques, les fêtes, le soir, comment vous vivez ces moments-là du Festival de Cannes ?
Oui, c'est très difficile de se faufiler le soir dans les fêtes, dans les festivités. Si vous n'avez pas d'invitation, c'est quasiment impossible. Donc il faut essayer de tourner des endroits festifs, mais ouverts, des endroits publics. On y est arrivé à filmer quelques endroits publics, mais ce n'est pas le côté le plus sympathique du Festival de Cannes, je crois.
Alors c'est quoi le côté le plus sympathique du Festival de Cannes, Olivier Servet ?
C'est la joie que provoque ce alors on dira
ce cirque,
oui, cette espèce d'illusion d'habitus illusoire, dirait notre ami Bourdieu, pour faire pédant. Je crois que c'est ça, les gens ont une joie incontestablement de regarder des stars, ça fait très ancien régime tout ça, hein, je veux dire, ils viennent en calèche et les gens débarquent, vous passez des photos de 1910, vous avez la même chose, mais ça provoque de la joie incontestablement, de la joie, de la bonne humeur, les gens prennent des photos, ils sont capables d'attendre 8 heures assis sur une chaise ou sur un escabeau pour voir passer 2 minutes de montée des marches. Quoi. Peu de gens sont capables de le faire, mais donc il faut avoir une certaine empathie quand on regarde ces gens-là. Je les trouve, moi, très sympathiques, très avec beaucoup de courage et avec émotion. Hein.
Merci Olivier Servet. Je rappelle le titre de votre film qui sort aujourd'hui, en même temps que l'ouverture du Festival de Cannes d'ailleurs, Le goût du tapis rouge. Bonne journée à vous. Vous cédez votre place à Michel Simon. Allez, c'est parti. C'est la 70e édition, une édition anniversaire. S'il fallait compter vos festivals de Cannes, Michel Simon.
Ben, mon premier était en 69, donc vous voyez, ça fait 48. J'en suis à 48.
Bravo, et vous n'avez raté aucune...
Presque mon âge.
Vous n'avez raté aucune édition.
Aucune.
Bon, alors, le coup de cœur pour vous, c'est un film qu'on va voir en compétition officielle cette année à Cannes, qui sortira en même temps. C'est le dernier film de Jacques Doyon.
Oui, qui fait la couverture de Positif, puisque c'est un peu ça le coup de cœur de votre émission Toufi Kakem. Alors, c'est un film rodin, évidemment. C'est le contraire d'un film patrimonial. Il ne s'agit pas d'être au garde-à-vous devant le grand homme. C'est un biopic sans l'aide vraiment, parce qu'il ne retrace pas toute la vie de Rodin. Il n'y a pas les grandes expositions où il a été là. Il n'y a pas le voyage en Italie. Il n'y a pas l'enfance. Non, c'est plutôt concentré sur quelques années de sa vie.
Ça me rappelle le Van Gogh de Piala, qui a eu beaucoup de succès et qui a partagé les critiques à Cannes.
Il est possible que Rodin partagera. On lira demain matin la presse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet vraiment pour Doyon, parce que Doyon, un des grands cinéastes français, il ne faut pas l'oublier, qui est dans les années maintenant soit septuagénaire, c'est le peintre de la femme et surtout le peintre du triangle amoureux. Il y a toujours chez Doyon deux femmes, un homme, et il aime ce genre de sujet. Il le traite avec beaucoup de force, avec des scènes souvent violentes. Et là, évidemment, il est servi avec les rapports Camille Claudel-Rodin, et puis aussi, pas seulement Camille Claudel-Rodin, mais aussi une femme qui vit régulièrement avec lui, qui est pas son épouse officielle. Et donc, ce personnage, c'est Rose, qui est jouée par Séverine Canel, qu'on avait vue dans L'Humanité, qui revient
de Dumont, après,
grande actrice, et elle représente le peuple, elle représente la terre, elle est d'ailleurs massive, elle a les pieds dans la glaise, et l'autre, évidemment, Camille Claudel, c'est une femme beaucoup plus torturée, intellectuelle, etc. Donc c'est un triangle extraordinaire, et d'autre part, Doyon n'oublie pas que Grosin est un sculpteur, et on voit le travail du sculpteur joué, évidemment, par ce grand acteur qui est Vincent Lindon, et qui, vraiment, on voit l'homme au travail. Donc il y a les deux aspects, la vie amoureuse et la vie artistique.
Et on écoute un extrait du film.
La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier.
Ça a l'air d'être un film d'un classicisme tout à fait cannois, Michel Simon, ce Rodin.
Le classicisme, vous savez, le classicisme, quand on l'oppose au modernisme, évidemment, quand il sort, on préfère les modernes, parce qu'on dit, voilà, ça c'est... Et puis on se rend compte, 30 ans plus tard, que souvent les films classiques, c'est ceux qui tiennent le mieux le coup. Quand on regarde la télévision et qu'on voit les grands films hollywoodiens classiques, ça tient mieux le temps que les œuvres expérimentales. Parce que l'expérimentation, parfois, devient désuète, ou elle a été dépassée, ou elle était à côté de la plaque. Mais le classicisme, on ne doit pas trop se moquer de lui, on doit se moquer de l'académisme, qui est une chose, effectivement, qui reproduit des modèles qu'on a déjà vus et qu'on fait de la copie.
Ce qui n'est pas le cas, donc, pour le Rodin de Doyon.
C'est pas du tout le cas. Encore une fois, c'est un film qui mélange la passion amoureuse et la création artistique, qui mène de front ces deux thèmes magnifiques. Et je trouve que c'est un des plus beaux films qu'on ait fait sur la vie d'un artiste et le travail d'un artiste.
Alors ça, c'est pour le coup de cœur de Michel Simon.
De Positif, pas
de
seulement
Positif.
De moi.
Le coup de cœur de Positif. Ici, on passait maintenant au négatif. Par exemple, l'ouverture de ce festival de Cannes, le 70e anniversaire, donc, qui s'ouvre, une édition donc qui s'ouvre ce soir avec le film d'Arnaud Desplechin que vous avez vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Michel Simon?
C'est Les fantômes d'Ishmaël. Mmh. Voilà. C'est
le titre.
C'est un film qui pose problème, c'est-à-dire que individuellement, si vous regardez chaque scène, c'est un grand cinéaste. Si vous regardez les comédiens, Marion Cotillard en particulier, Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg, c'est très beau, un très beau travail. Le problème, c'est que il y a deux films en fait. Il y a un film qui va sortir au Panthéon dans une salle.
Je dirais pas
que c'est un enterrement, mais tout de même, au Panthéon pour un film, une seule salle, c'est pas beaucoup. Et la province.
Enfin, c'est la version longue qui ne sort que dans une seule salle.
La version de Arnaud Desplechin qu'il a souhaité proposer à Cannes faisait 2h20. Et il a fourni une version qu'on souhaitait de 1h50, donc il manque 30 minutes.
Qu'on souhaitait, c'est-à-dire c'est le festival ou c'est le distributeur?
Oui, enfin je ne sais pas si c'est le festival, le distributeur, le producteur, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'on arrive avec un film auquel il manque 30 minutes et ça se ressent. En particulier, ces 30 minutes, c'est dans la deuxième partie que ça se situe. Et évidemment, à partir du moment où la première partie, qui est vraiment très très Desplechin, parce que c'est vraiment toute la thématique de Desplechin, il y a Roubaix, il y a le film dans le film, il y a l'espionnage, il y a tous les thèmes qu'il a. Et puis évidemment, les rapports de famille, les femmes, tout est pur Desplechin, mais évidemment, la première partie est très bonne, et puis la deuxième partie, on perd pied un peu, parce qu'il manque beaucoup de choses. Et donc, c'est du coup un scénario remanié, enfin, c'est pas le scénario, puisque le scénario a été filmé, mais on a coupé dans ce récit, et je trouve que le film en souffre. C'est pas du tout un film négligeable, c'est pas du tout un mauvais film. Moi, je suis un très grand admirateur de Desplechin, qui est un des grands cinéastes français de sa génération, mais je dirais que le film, tout de même, est un peu bancal, et c'est un peu dommage.
Le rêve d'Ismaël, après le Rodin de Doyon. Donc, on va passer maintenant au film qui ne passe pas au Festival de Cannes, ou du moins pas en compétition officielle. Par exemple, le dernier Alien de Ridley Scott. J'espère, Michel Simon, que vous l'avez vu et autant apprécié que nous.
Alors, Alien Covenant aurait pu être une ouverture, parce que c'est tout ce qu'il faut pour une ouverture, énormément d'effets spéciaux, des acteurs connus, etc. Mais là aussi, j'étais un peu déçu, parce que il s'agit d'une suite, évidemment. C'est le sixième Alien, qui a donné de très beaux films. Le premier film, évidemment, c'était de Ridley Scott. Le second, c'était de David Fincher. Ensuite, il y a eu Jean-Pierre Jeunet. Et à chaque fois, c'était vraiment des films qui renouvelaient le thème. Là, on a vraiment l'impression, avec Michael Fassbender dans le rôle principal et Catherine Waterston, c'est encore, évidemment, une équipe qui, sur un vaisseau spatial, le Covenant, qui se dirige vers une planète situé au fin fond de la galaxie. Ils croient là-bas trouver le paradis terrestre. Les pauvres, ils se trompent rudement. Puis de toute façon, le cahier des charges, c'est qu'il y ait un moment de terreur toutes les 30 secondes. Donc c'est pas du tout le paradis terrestre, mais c'est au contraire un univers sombre et dangereux. Et le problème, c'est que Ridley Scott, qui est, je ne veux pas du tout le diminuer, qui est un homme qui a fait de très beaux films, mais il vient de la publicité, il vient du design. C'est-à-dire, c'est un très grand designer. Alors, l'enveloppe esthétique est très belle, mais il ne reste un peu que cela, et en plus, la terreur à chaque moment, parce qu'il sait qu'il travaille pour un public adolescent aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis.
Et nous le sommes tous un peu adolescents, Michel.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les adolescents d'aujourd'hui, il faut que ça zappe. Ils zappent très vite si une séquence dure plus de 1 minute ou 2 minutes. Et là, Ridley Scott en donne vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas zapper, parce que toutes les 2 minutes, il y a un cri d'effroi, il y a une bête qui arrive, gluante, qui sort des trucs. Et à un moment, vous savez, le grand architecte Mies van der Rohe, allemand, disait « less is more », moins, c'est plus. Avec Monsieur Ridley Scott, plus, c'est moins.
Bon, en tout cas, pas au double avec vous, c'est toujours un plus, Michel Simon. La revue positive. Alors, en kiosque, avec en couverture
Rodin, mais aussi, il faut le dire, un dossier.
L'exclusivité pour moi, c'est l'interview de Quincy Jones.
Voilà, c'est un des très très rares interviews que le grand musicien de jazz Quincy Jones a donné, ainsi que Bruno Coulet.
Voilà, parce qu'il y a un dossier sur les musiques de films.
Et puis Barbet Schroeder, qui est honoré au Centre Pompidou, il y a un grand dossier, et Jean Rouch, dont c'est le 100e anniversaire.
Et puis, je peux annoncer qu'on vous retrouve dès ce soir et quotidiennement dans l'émission Ping Pong, en direct du Festival de Cannes, que vous allez couvrir pour France Culture. Merci beaucoup, Michel Simon.
Il y aura
Simon.
Des smashs.
Ouais. Eh ben, on va être à l'écoute. Merci beaucoup, Michel Simon, d'être passé.